Oula, c'est mal barré. Bonsoir, oui, il y avait un petit chat dans le... qui traînait là. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute donc de Idées Noires, puisque c'est l'heure, c'est 20h.
Tout à fait.
C'est l'émission de l'Union communiste libertaire. A tout de suite. Bien, bonsoir à toutes et à tous, toujours donc à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, finalement, donc voilà.
Tout à fait.
Eh ben oui,
c'est toujours ça.
Comme tous les mercredis, à partir de 20h jusqu'à 21h, vous écoutez ce qu'on peut raconter, nous autres anarchistes de l'Union communiste libertaire, sur l'actualité qui est bien chargée, évidemment. Donc on va commencer par quelques annonces, probablement.
Quelques annonces, soit une annonce qui, une manifestation qui a lieu ce samedi, et puis une autre qui sera un peu plus loin dans le temps et pas très près de Lyon non plus, je vous dis ça tout de suite. Et puis comme d'habitude pour les annonces, vous pouvez tout trouver aussi notamment sur Rebellion, voilà, pour avoir quelques dates d'événements en plus militants. Oui, je voulais vous parler du coup de la marche des fiertés qui aura lieu du coup ce samedi 8 juin. Alors attention, il y a eu des petits changements de parcours, puisque au départ la marche devait partir vers le parc de la Tête d'Or et arriver au parc Sergent Blandan, et finalement le départ de la manif se fera à la manufacture des tabacs. D'accord, dans le troisième.
Sacré
changement, donc à bien prendre en compte. Par contre, ça arrivera toujours au même endroit, au parc Blandan. Donc forcément le trajet a été forcément modifié. Donc départ à 13h, 13h prise de parole associative, donc à la Manu. 14h départ de la manif pour une marche. Alors prévoyez, je sais pas quel temps il fera ce week-end, mais bon, je crois pas qu'il fera aussi chaud qu'aujourd'hui. Mais prévoyez au cas où, parce que c'est quand même une marche de 4,7 km. Puisque la marche nous emmènera sur tout le long du cours Gambetta jusqu'à la Guillotière, prendra le quai Claude Bernard, passera devant la piscine jusqu'à l'avenue Berthelot, donc devant la fac aussi Lyon 2, et après du coup avenue Berthelot jusqu'à la rue Garibaldi, la rue du Repos, et on arrivera du coup parc Sergent Blandan, avec à 17h le village des fiertés et à 19h la fermeture du village, et il y a une after pride sûrement ailleurs. Donc voilà pour le détail. On va vous donner aussi l'ordre des cortèges. Voilà, important du coup à respecter. Ordre des cortèges non mixtes, parce que du coup au départ ce sera que des cortèges non mixtes. Donc le cortège queer racisé, ensuite le cortège trans non binaire et intersexe, ensuite le cortège lesbien, ensuite le cortège handy et enfin le cortège polyamour. Il y aura aussi du coup un cortège de soutien à la Palestine, et ensuite il y aura, oui, parce que là, du coup on est au niveau des cortèges mixtes et associatifs, donc il y aura le soutien à la Palestine, il y aura SOS Homophobie plus Cargo plus Eurogames, ensuite les audacieuses et audacieuses Exit, et enfin Keep Smiling pour finir. Voilà, vous apercevez aussi qu'il n'y a pas de nouveau de cortège politique ou syndicaux pour le moment de nouveau à cette marche-là. Donc voilà, on espère que ce sera bientôt le cas pour qu'on puisse au coup de nouveau aussi de pouvoir défiler de nouveau avec nos couleurs.
Oui, je voulais reprendre la suite et rajouter que pour ce samedi, on vous annonce à chaque émission nos permanences, donc du mercredi 17h30, 19h30 et le samedi de 15h à 19h. Eh bien malheureusement, pour ce samedi-là, il n'y aura pas de permanence puisque nous serons tous et toutes à la marche des fiertés pour en assurer tout un tas de choses, quoi.
Ouais, voilà. Il y avait aussi normalement donc il y aura un cortège pour la Palestine, de soutien à la Palestine dans de la Praille. Il y avait aussi une mobilisation appelée à 15h place Bellecour aussi pour la Palestine. On verra comment tout ça se goupille. Donc voilà pour cette annonce. Et du coup je voulais parler d'une lutte écologique, une lutte forestière, puisqu'il y aura une manifestation nationale à Guéret, donc c'est pas à côté mais c'est le 30 juin. Ça vous laisse le temps un petit peu de vous organiser, je vous lis. Donc c'est un petit article que vous pouvez retrouver du coup sur le numéro de ce mois-ci de notre journal Alternative Libertaire. Face au défi du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de la raréfaction de l'eau, la forêt devient un enjeu politique majeur. Nous considérons la forêt comme un bien commun qui doit être protégé des errements capitalistes rêvant de profits à court terme. Les 28 et 29 juin, c'est la Creuse qui accueillera collectifs et associations de toute la France pour un nouvel appel, entre guillemets, appel pour des forêts vivantes. Et le 30 juin, à Guéret, une grande manifestation nationale se déroulera contre deux projets industriels emblématiques qui menacent les forêts du Limousin. Chaque massif forestier a son histoire, ses espèces, ses filières artisanales et industrielles spécifiques. Chaque forêt joue un rôle écologique, économique et social. C'est pourquoi la forêt est, depuis longtemps, l'objet de combats politiques autour des droits de propriété, d'usage et d'accessibilité. La forêt possède de nombreuses vertus écologiques, et le bois aussi, à condition de limiter les prélèvements au seuil du renouvellement naturel, de respecter l'écosystème en pratiquant une sylviculture douce à couvert continu, un jardinage, entre guillemets, qui permet à la forêt de se régénérer elle-même en prélevant petit à petit les arbres arrivés à maturité. Le bois est indispensable au papier et carton appelé à remplacer le plastique. Il est nécessaire dans la construction et incontournable dans les bâtiments zéro énergie. Il est précieux pour un ameublement durable et encore utile au chauffage individuel en zone rurale montagneuse. Pour ses seules fonctions, la ressource forestière serait bien suffisante, mais le bois est victime de surconsommation dans le cadre de la mondialisation du commerce et des besoins du transport international en conteneurs. Caissettes, palettes, boîtes de carton à usage bien souvent unique. La plus grande menace cachée sous de pseudo-motifs écolo provient des demandes en bois énergie joliment qualifiées de biomasse. Un peu dans l'industrie, mais surtout dans les chaufferies des grandes villes. Sans compter les dernières folies qui projettent de faire voler des avions verts avec un biocarburant tiré de la forêt landaise, en même temps qu'un projet prévoit d'y couper des milliers d'hectares de pins pour installer des panneaux solaires. Bref, l'industrie forestière rejoint les maux de l'agro-industrie. L'humanité a toujours tiré profit de sa forêt proche pour ses besoins élémentaires, se chauffer, se loger, fabriquer des objets de toutes sortes, mais depuis quelques années, le processus est inversé. Les bois traversent la planète globalisée pour y être valorisés selon des critères du marché. Ainsi, nos chênes partent se faire découper en Chine pour nous revenir en parquet produit en Pologne. Pire encore, ce sont les industriels qui dictent aux forestiers les essences, les caractéristiques et les volumes qu'il faut planter et couper. Avec un double défi, la destruction des forêts de feuillus, chênes, hêtres, charmes et des haies d'une part, l'extension des champs d'arbres plantés, en majorité des pins de Douglas d'autre part. C'est sous Sarkozy que la première offensive majeure a été lancée, combinant une destruction des missions centenaires de l'Office national des forêts, dont la préservation des forêts et la coupe massive d'arbres de haute valeur, les très vieux chênes en particulier. Les personnels s'étaient alors courageusement mobilisés pour refuser cette politique et l'abattage des forêts domaniales, 25% des forêts françaises, pour enflouer les caisses de l'État. Une même logique s'installe en forêt privée. Les grosses scieries automatisées ne savent plus traiter les fûts les plus gros ou bien juste différents, et IKEA a tué les menuisiers. Alors les feuillus partent à l'export ou sont réduits en déchets pour les chaufferies. Avec le plan France Relance, Macron a offert 200 millions aux propriétaires forestiers pour couper leurs forêts et replanter des champs de pins Douglas. Et les coupes rases, désastreuses pour l'environnement, se multiplient, suivies de plantations qui nécessitent engrais et pesticides avec néanmoins un taux d'échec de 50%. Des pins Douglas qui pourraient produire de magnifiques fûts en 100 voire 200 ans, mais qui sont coupés de plus en plus jeunes, entre 30 et 40 ans, pour alimenter les scieries de bois parfaitement standards. Les autorités et les gros industriels se défendent avec deux arguments. Il faudrait abattre vite les arbres qui vont mourir du changement climatique et la surface globale de forêt resterait stable. Deux mensonges. La surface reste stable du fait de la déprise agricole en zone montagne, mais la qualité des forêts se détériore et le volume de bois sur pied recule. Quant au changement climatique, dont ils sont responsables, si les tests d'adaptabilité de nouvelles essences menées par l'ONF et les forestiers sont utiles, la forêt se débrouillerait aussi bien sans intervention humaine. Face aux désastres, associations, collectifs et syndicats, CGT et FSU se mobilisent depuis plusieurs années, gagnant une écoute de plus en plus large parmi les propriétaires privés qui font plus de 90% des proprios en Creuse. Un réseau forêt limousine rassemble plus de 30 structures militantes. Deux projets industriels au nord et au sud du département inquiètent particulièrement pour les volumes de prédation annoncés. À Guéret, 500 personnes se sont réunies pour une réunion publique contre l'implantation d'une usine à pellets de bois pour chaudière, Biosil, cet hiver. Au sud du département, à la frontière avec la Corrèze, 200 personnes se sont rassemblées contre l'extension d'une scierie, Farge Pifteau, destinée à être la plus grosse de France. Deux projets gavés de subventions publiques dont les besoins en bois impliquent des coupes sans précédent. La raréfaction de la ressource au détriment des particuliers des petites scieries qui se maintiennent difficilement malgré le service rendu localement. Les 28 et 29 juin, donc, la Creuse accueillera collectif et association pour un appel des forêts vivantes. Et le 30 juin, donc, une manifestation nationale aura lieu à Guéret contre ces deux projets et pour la défense des forêts du Limousin comme d'ailleurs. Donc voilà un article dans notre journal Alternative Libertaire de ce mois-ci de notre camarade Jean-Yves du Limousin, justement. Un petit communiqué, puis après on fait une petite pause musicale, ça fera à peu près 20h15. Voilà, communiqué de pas mal de signataires sur Montpellier, puisqu'il y a eu une nouvelle agression par des néo-nazis ce week-end à Montpellier. Je vous lis tout ça, donc voilà, c'est dont un camarade du coup qui a été pris à partie. Ce samedi, donc samedi dernier, 1er juin, pendant la fête des fanfares, fête populaire vieille de 30 ans à Montpellier, une dizaine d'individus du bloc montpelliérain, groupuscule néo-nazi local, masqués et encapuchonnés, ont arpenté les rues des quartiers des Beaux-Arts et de Boutonnet, ciblant des personnes à violenter en raison de leurs origines, leur confession religieuse, leurs orientations sexuelles ou leur engagement politique. Cette milice fasciste a encore laissé libre cours à sa haine, altercation avec des festivaliers festivalières supposés de gauche ou racisés, agression violente dans le dos d'un syndicaliste, lancée de projectiles sur un stand tenu par des femmes voilées, téléphone cassé d'une passante qui filmait. Plus tôt dans la journée, c'est une personne transgenre et syndicaliste qui a été menacée, prise à partie et filmée par le même groupe au parc Méric. Après avoir imposé leur terreur pendant plusieurs dizaines de minutes, ils ont fui les lieux sans être interpellés ou contrôlés. Ces agressions font suite à de nombreuses autres violences et intimidations dont la liste s'est allongée cette dernière année en toute impunité, encouragée par l'inaction du gouvernement et les dérives islamophobes de différents partis. Nous sommes et resterons pleinement mobilisés pour envoyer aux poubelles de l'histoire ces idéologies rances et ceux qui tentent de propager et d'imposer un ordre de terreur ancien et funeste. Nous dénonçons les agissements violents, racistes, sexistes, homophobes et transphobes de l'extrême droite qui s'expriment derrière un costume trois pièces à l'Assemblée nationale ou sous forme d'expéditions punitives de gros bras dans nos rues. Ce n'est pas la première action du bloc montpelliérain. Ils s'affichent sur Internet agressant des individus isolés à plusieurs reprises et ont menacé des journalistes sur une manifestation des agriculteurs en début d'année. Nous apportons toute notre solidarité aux personnes agressées hier lors d'une fête populaire qui rassemble les habitants et habitantes de Montpellier autour de la musique et de valeurs humanistes et de partage. Nous nous interrogeons sur la facilité avec laquelle ces individus dangereux ont passé les contrôles pour s'introduire et surtout s'enfuir de l'événement. Nous serons particulièrement vigilantes et vigilants sur les suites que le procureur de la République donnera aux plaintes qui ont été et qui seront déposées. Pas de fascistes dans nos quartiers, donc signé par l'Athletic Club Asteras Montpellier, la Carmagnole, la CNT 34, Football du Peuple, la FSU 34, Gauche Éco-Socialiste, Jeune Garde Montpellier, LDH, LFI, MRAP, NPA, Parti de Gauche, Révolution Permanente, Sud Éducation, Solidaire Étudiante, Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo, l'Union Départementale Solidaire, l'ULCGT Montpellier, RUSF 34, le Point Levé Montpellier et bien évidemment l'Union Communiste Libertaire, nos camarades de Pont Montpellier. Et donc voilà, gros soutien à toutes les victimes de ces agressions de ce week-end. Ouais. Et donc du coup, si vous le voulez, on peut passer à une petite pause musicale.
Absolument, donc j'ai préparé un petit morceau là, que l'on connaît bien, c'est de Philippe Catherine. Ouais. Et c'est... Qu'est-ce qu'il a dit ? Alors c'est parti.
C'est parti.
Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai pas compris ce que t'as dit. Ce que tu dis, si j'ai bien compris, personne ne comprend ce qu'il dit. C'est politique ou c'est pas politique? T'as trop fumé ou t'as trop picolé? Jean m'a dit qu'il pense pas ce qu'il dit, mais qu'il pense que quand c'est dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris ce qu'il a dit.
qu'il pense parce qu'il dit, mais qu'il pense que quand c'est dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est son mec, il est un pec. Qui c'est son mec? C'est un pauvre mec, il est un pec. Moi j'aime ce mec.
Et ouais, nous voilà de retour pour Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et nous allons passer sur cette deuxième partie d'émission à une page de lutte sociale.
Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a dit en ce moment
difficile à écouter. Ouais, c'est clair.
Enfin, vaut mieux écouter quand même un petit peu, mais enfin, c'est très difficile à suivre. On peut dire ça comme ça. Bon, eh ben, écoutez, on va essayer d'être plus clair dans ce qui est des luttes sociales depuis deux semaines à peu près. Hein, là. Je vais commencer déjà par un anniversaire. J'aurais dû le faire il y a 15 jours et que j'ai oublié. C'est l'anniversaire, bon anniversaire pour la société coopérative participative SCOP-TI. Alors, 10 années de vie quand même pour la coopérative ouvrière provençale de thé et infusion qui a été créée en 2014 après maintes, pléthore de luttes d'actions syndicales, de justice contre un adversaire de taille, une multinationale, Unilever, pour ne pas la citer, à 60,1 milliard d'euros quand même en chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires de 2022, c'est pour vous dire. C'est dire que la lutte était inégale. Pourtant, gagnée avec 1336 jours de lutte, de grève, de négociation et aussi de soutien syndicaux et de soutien de camarades sur la bonne ville de Gemnos dans les Bouches-du-Rhône. Après avoir été société des T-éléphants depuis 1927, puis Fralib, c'est d'eux que je parle, les Fralib, en 1977, une filiale donc d'Unilever, achetée en 1975. En 2003, la direction Unilever décide d'abandonner les productions de thé d'infusion. La lutte des Fralib donc démarre avec la CGT, la CGC et maintes occupations. En 2010, c'est une menace de délocalisation de la part de la direction d'Unilever. Un conflit social intense débute médiatiquement en 2012. Quand je dis médiatiquement, parce qu'il y a eu quand même un gros travail, par exemple un meeting à Paris, puis dans plusieurs villes. Trois plans sociaux annulés quand même, il faut le dire. Trois plans sociaux de la direction d'Unilever ont été annulés. Et donc Unilever est à bout de souffle, on peut dire, et d'arguments, et 1336 jours d'occupation d'usine. La multinationale donc cède le matériel de production pour 1 euro et finance même la création d'une SCOP, donc la fameuse SCOP-TI, pour la production de plantes aromatiques en culture biologique pour soutenir la SCOP et créer, pour soutenir la SCOP et créer une association Fralibertie, je dis l'orthographe, Fralibertie. J'insiste, dédié donc au public pour une adhésion à 13,36 €. 1336, donc est devenu une marque pour le thé bio et infusion, bio également, 100% naturel. Il y a eu même un film de fait et une pièce de théâtre en 2017, pour rappeler. Donc je dis bon anniversaire et bon vent pour la suite. Alors je voudrais faire un petit peu de publicité là, parce que quand même ça vaut le coup pour nos camarades donc de Gemnos. On trouve la marque donc un peu partout aujourd'hui. On peut se procurer des produits, évidemment, directement. Je pense que c'est encore possible. Voilà. Bon anniversaire, donc, au Fralib. Et donc, la Scope Petit. C'est ce que je voulais faire pour débuter cette page. On va revenir, donc, aux luttes sociales actuelles avec la ville de Poitiers et la ville de La Rochelle. Donc, Poitiers, c'est la Vienne et La Rochelle, c'est la Charente-Maritime. C'était le 23 mai. Avec une grève à France 3 et France Bleu. Je pense qu'on a dû en entendre parler un petit peu, quand même. Pour une majorité donc des salariés, pour son entrée donc dans le gouvernement de M. Macron, enfin du moins de M. Attal, Rachida Dati a imaginé une seule et même grande entreprise. Peut-être avait-elle reçu en héritage ce splendide gâteau de ses prédécesseurs. Alors, projet qui ne plaît pas du tout aux travailleurs et travailleuses de l'audiovisuel public. Si la fusion prend vie sur un texte de loi, le ministère souhaite créer une holding, puis une fusion des groupes, etc., etc. Le texte de loi a été présenté ce 23 mai, dont les salariés grévistes qui dénoncent une menace pour la qualité de l'information, la fin de du particularisme. En novembre 2023, un premier jet de colère sous forme d'une grève illimitée contre cette réforme. Les grévistes exige conserver les antennes, les productions régionales et pourquoi pas aussi les améliorer. Hein. Mais là, c'est une autre question. C'est une question de sous. Le 24, donc le mouvement était toujours là. La fusion selon Rachida Dati serait programmée pour janvier 2026. Alors en chiffres, c'est 33% de grévistes quand même. C'est quand même assez formidable. Pour assurer la retransmission du grand débat Attal-Bardella, la direction a eu recours à des prestataires externes, selon les syndicats de France 2. Une manifestation au ministère de la Culture aussi le 23, avec plusieurs centaines de personnes. Autre chose, c'est à Villefranche de Lauragais, c'est en Haute-Garenne. En Haute-Garonne. Non, mais il n'y a pas de lapin là-dedans. Donc, ce jeudi 23 mai, avec un autre service public malmené, d'autres salariés aussi malmenés, des agents du conseil départemental de Haute-Garonne qui occupent le secteur routier, étaient en manifestation, une vingtaine de personnes en tenue de travail avec la CGT. La grève est déclarée pour la défense du service public. Certains contractuels dont le contrat ne sera pas renouvelé, restrictions donc budgétaires dans ce département. D'autres suivront selon la CGT, 67 au total. Alors je pense que c'est 67 départements. Le syndicat exige la pérennisation, d'autant que les contractuels sont en poste depuis plusieurs années. À Saint-Loup-sur-Sémouse, c'est en Haute-Saône, le 22 mai, avec l'association Mosaïque l'UPN, qui assure, du moins les salariés, et qui assure le périscolaire dans la commune, et extrascolaire aussi, depuis 30 ans, une trentaine d'années, avec une vingtaine de salariés, ne sait plus où donner de la tête. La commune a décidé de changer de gouvernance, donc avenir incertain pour les 20 personnes qui ont décidé d'une grève avec la CFDT, c'était le 21 mai. Alors, quoi qu'il arrive, la direction communale assure que la continuité des services se fera. Alors, l'attaque, entre guillemets, du maire sur l'association Mosaïque l'UPN, avec 10 ans de service quand même au sein de la commune, j'ai dit 30 tout à l'heure, mais c'était avant qu'il y ait eu ce maire, là, a pour cause une gestion financière opaque. L'association était liée par convention à la mairie et subventionnée par la caisse d'allocation familiale. Le maire, souhaite reprendre la gestion de ses services. Quant aux employés, leur avenir, je citerai le maire en question, ce n'est pas mon ressort, leur a-t-il dit. leur a-t-il répondu ? Voilà, ce maire est du groupe Renaissance, donc c'est un macroniste. Voilà. Ensuite, j'ai Le Havre. Le Havre, donc, en Seine-Maritime, hein, comme au niveau national, c'était une grève chez Monoprix, dont j'ai pris cet exemple du Havre. Mais à niveau donc, national, c'était le 23 mai. Alors la cause, vous les avez deviné, ce sont les NAO, hein, les négociations annuelles obligatoires, à mesurette, selon les grévistes, qui ne faiblissaient pas, selon le syndicat FO. Les augmentations, c'est à la tête du client, plutôt de l'employé, 84 personnes. Les mesurettes, la mesurette, c'est 1,25%. C'est plutôt que des mesurettes, c'est plutôt des miettes qu'une mesurette. Et pas de participation cette année au groupe Casino, parce que Monoprix fait partie du groupe Casino, et on sait très bien dans quelles conditions ils sont aujourd'hui. Enfin, apparemment, ils ont été rachetés, mais bon, bref. Donc la suite, c'était le 25 mai, d'après la CGT, mais je n'ai pas eu la suite en question. Belfort, maintenant, dans le territoire du même nom, le 23 mai, avec la grosse boîte télé Performance, qui est un centre d'appel, avec une grève. Le site Belfortin risque donc de passer de vie à trépas. Ils sont sur le banc, comme on dit, le bas BAN, le banc, comme on dit. Donc, un gros client a lâché le combiné. Et ce gros client, c'est EDF. Alors, contrat terminé en septembre prochain. Les employés ne sont pas informés de l'avenir qui les attend. Rassemblement organisé en protestation, car plus grave, ce brouillard qui s'est installé provoque de l'anxiété et des mi-temps thérapeutiques. L'effectif a diminué de 25% depuis la démission, le départ, du moins, de EDF. Maintenant pour harcèlement syndical, on avait un peu lâché le truc là, on n'en voyait plus tellement, ou on n'en parlait pas tellement, mais enfin ça devait encore exister. Là c'est un harcèlement syndical, donc envers un représentant de salariés. Il s'agit de Christian Porta de la CGT. Le harceleur en question, c'est la société de l'agroalimentaire Neuhauser, qui est un groupe qui fait partie du groupe Invivo, qui aussi est, Invivo c'est une locution latine, qualifiant des, j'ai été chercher ça, je me suis fait plaisir, qualifiant donc des recherches ou des examens pratiqués sur un organisme vivant. Alors d'ici que Neuhauser, boulangerie industrielle, confonde le syndicalisme comme une bactérie, il n'y a qu'un pas. Donc Porta a été licencié pour fait de lutte sociale, avoir dénoncé donc son crime entre guillemets, c'est d'avoir dénoncé en février les conditions de travail au sein de l'entreprise Folch-Willer, en Moselle. Folch-Willer, c'est la ville, bien sûr, en Moselle. Il a été accusé de harcèlement moral envers la direction. Allons bon. Le licenciement a été refusé par l'inspection du travail, puis par le conseil des prud'hommes, et la réintégration a été prononcée. Invivo, donc le groupe auquel appartient la maison, la boulangerie industrielle, a empêché l'accès du lieu de travail par des gendarmes interposés, puis a relancé une procédure le 24 mai de licenciement, et même voulait fermer l'usine. Alors, abracadabra en stress, qu'on va dire, de la part d'un groupe qui se présente comme une étoile du monde agricole. Alors, Christian a le soutien, évidemment, d'associations, de l'écologie, de la CGT aussi. On a même vu arriver la secrétaire de la CGT, Sophie Binet, et le nôtre à notre soutien aussi, bien entendu. Alors, il y a également quand même, ça c'est bon à noter, c'est pas banal, il y a une affaire de pesticides aussi pour Invivo, une société qui est une société coopérative qui regroupe 185 coopératives et qui émarge à 10 ou 12 milliards d'euros en 2021 en chiffre d'affaires, selon bien entendu les critères du capital. Voilà pour ce qui est de cette première page.
Ça marche, et nous allons voyager un petit peu. Et vous parlez d'un article qui a été publié, enfin une série d'articles du coup sur le magazine CQFD, que vous pouvez retrouver aussi sur, bien évidemment sur internet, et qui s'est intéressé à l'Inde et notamment à la situation politique là-bas. Donc c'est une interview d'une anthropologue qui est indo-britannique, qui s'appelle Alpa Shah, qui a publié une enquête sur la répression du mouvement social indien. Et vous le savez ou pas, mais en tout cas il y a eu les élections présidentielles en Inde très récemment, puisque le scrutin était sur un moment, mais du coup se finissait le 10 juin, et qui du coup est de nouveau au pouvoir. Et du coup l'article en question permet de discuter du coup avec cette anthropologue du basculement de la plus grande démocratie du monde, hein, comme on l'avait connu à l'époque avec le symbole Gandhi, etc. Mmh. Et ben vers le fascisme. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a eu les élections là qui ont eu lieu, parce que l'article date de quelques semaines maintenant. Et donc du coup, celui qui est au pouvoir, Narendra Modi, est de nouveau au pouvoir, et on lui demande du coup ce qu'elle ressent dans ce contexte. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une vision excluante de l'idée de nation qui se cimente pour les décennies à venir. Je ressens une grande tristesse car en tant que chercheuse, en tant qu'indienne de la diaspora, je connais la diversité de ce pays. Et ce qui s'y passe aujourd'hui, c'est une vision excluante de l'idée de nation qui se cimente. Elle exclut en particulier les 200 millions de musulmans indiens, donc il faut savoir qu'il y a 1,3 milliard d'habitants, hein, 200 millions de musulmans indiens, et déploie aussi une idée particulière du citoyen, du maintien de l'ordre, de la morale publique, que je trouve très destructrice. On ne peut pas attendre grand-chose de l'opposition parlementaire extrêmement faible et divisée, d'autant que les institutions et les médias sont aujourd'hui contrôlés par le BJP, donc le parti suprémaciste au pouvoir. Mon seul espoir pour limiter les dégâts, c'est que Modi n'obtienne pas le type de majorité dont il a besoin pour changer la constitution. Et on lui demande du coup à quel état comparerais-tu donc le régime indien actuel ? L'ethno-nationalisme religieux à l'œuvre en Inde est une particularité qui lui est propre, mais en termes d'autoritarisme, on pense à la Russie, à la Turquie et d'une certaine manière aux États-Unis de Trump. Je pense qu'on peut aussi comparer à la Chine, même si certains États préfèrent le nier pour poursuivre leurs accords commerciaux. Alors que si nous examinons le bilan en matière de répression des militants des droits humains, la persécution des minorités, la capture des institutions de l'État et des médias, il y a beaucoup, beaucoup de parallèles. La question suivante, s'il paraît que le parti de Modi est le plus riche du monde. Et bien en fait, en 2017, Modi a inventé les obligations électorales, electoral bonds, un système permettant à des donateurs de financer les partis politiques de manière anonyme et illimitée. Cela a permis au BJP, son parti, de recevoir d'énormes sommes d'argent de la part du monde industriel, près de 90% des dons, qui ne sont pas, bien sûr, sans contrepartie. Le milliardaire Gautam Adani a ainsi obtenu les faveurs de Modi et un accès privilégié aux ressources, aux terres, aux ports, aux aéroports. Et personne ne sait... Oups, pardon. Je me suis mélangé dans mes papiers, voilà. Mais personne ne sait combien il a donné au BJP, sauf le parti au pouvoir qui peut surveiller les personnes qui donnent ou pas. Les sommes reçues sont stupéfiantes, hein, et certains disent en effet que le BJP est devenu l'un des partis les plus riches du monde. En février 2024, la Cour suprême indienne a annulé ce schéma de financement, le jugeant anticonstitutionnel. Mais c'est sans doute trop tard vu la position que le parti a réussi à sécuriser. En aucun cas, il n'est question de geler les comptes de campagne. On s'attend donc à voir, comme la dernière élection en 2019, les dépenses indécentes pour faire gagner Modi, son hologramme de partout, et des photomatons à chaque coin de rue permettant à n'importe quel citoyen de prendre des selfies à ses côtés, un dispositif apparemment financé par le ministère de la Défense. La question suivante, c'est au-delà du BJP, Modi s'appuie également sur le... désolé pour la prononciation... Le Rashtriya Swayamsevak Sangh, le RSS. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça veut dire Association des volontaires nationaux, dont les membres sont appelés les Sanghi. C'est une organisation intrinsèquement liée au BJP qui a été créée en 1925 par des brahmanes au plus haut de l'échelle des castes. L'objectif était de former une branche armée de l'hindouisme pour se défendre contre les colons et les musulmans. Golwalkar, à la tête du RSS durant 33 ans, est l'un de ses idéologues les plus influents, admirait Hitler et l'extermination des juifs. L'assassin de Gandhi était membre de l'organisation. Interdit sur les Britanniques, puis à trois reprises dans l'Inde indépendante, le RSS a continué à s'étendre. Au-delà de ses milices qui sèment la terreur parmi ses opposants, il a développé son action dans toutes les sphères de la société grâce à son syndicat étudiant, son syndicat ouvrier, sa branche féminine, son organisation religieuse, son organisation caritative et d'autres encore. Le RSS est-il également présent parmi l'importante diaspora indienne de par le monde ? Et donc la réponse, le RSS a créé ses premières branches internationales dès 1947 en Afrique, au Kenya où je suis né. Il a établi ses propres écoles, les Chaka. Il y en avait une dans le quartier où j'ai grandi à Nairobi. Je pouvais la voir depuis la fenêtre de chez ma tante. Je voulais y aller, hein. Je les voyais jouer dans la cour. Je ne savais pas que cet endroit était réservé uniquement aux garçons. Je ne savais pas non plus, et je pense que la plupart des personnes qui y allaient ne le savaient pas, que ces écoles promouvaient également une vision excluante de l'Inde. J'entends, dans la diaspora britannique, que Modi est la meilleure chose qui ait pu arriver à l'Inde. Il lui a permis d'être un acteur majeur sur la scène internationale. Bientôt, elle sera la troisième économie mondiale et on a même été sur la Lune. Rendez-vous compte, tout est possible. Mais en 10 ans de pouvoir suprémaciste, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué? L'augmentation de la répression contre la dissidence, surtout après 2019 avec des lois antiterroristes systématiquement utilisées contre les défenseurs des droits humains, les attaques sur les ONG accusées d'exporter à l'international une vision trop négative de l'Inde, et à partir de 2016, les autorités ont suspendu ou refusé de renouveler la licence FCRA, Foreign Contribution Regulation Act, oula, qui permet de recevoir des dons de l'étranger, de centaines de groupes de la société civile où les ont accusés de se soustraire à la loi et ont gelé leurs comptes en banque. C'est ce qui est arrivé à Amnesty International, obligé à licencier du personnel, à suspendre ses campagnes et interrompre son travail en Inde. À cela s'ajoute aussi la mise sous silence des médias, avec une liberté de la presse considérablement réduite. Ce qui m'a le plus marqué, donc, ce sont aussi ces hommes qui peuvent désormais descendre dans la rue, se regrouper en milice et mener des lynchages publics, voire des émeutes en toute impunité. C'est très effrayant. J'ai vu des hommes fiers d'avoir lynché à mort des Dalits parce qu'ils étaient coupables d'avoir abattu une vache. Il a été démontré ensuite que les victimes n'avaient fait qu'exercer leur métier d'écarisseur. La police ne poursuit pas les agresseurs ou les met en prison quelques jours puis les relâche, pendant que certains des militants des droits humains les plus remarquables sont emprisonnés depuis plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, Modi se targue d'organiser les plus grandes élections du monde, mais ce rituel électoral ne peut plus cacher, la montée du fascisme. Et donc on lui demande là, ça qualifierait l'état actuel indien de fasciste. Oui, je pense qu'il est temps d'utiliser ce mot. La manière dont le régime inculque aujourd'hui aux masses une vision excluante de l'Inde, dont il les prépare à s'armer et à se battre contre leurs concitoyens musulmans, la collaboration étroite entre l'État et le capital, la dissidence étouffée, la peur distillée au sein de la société civile, la propagande autour de la figure de Modi, tout cela présente des similitudes avec des formes antérieures de fascisme ailleurs dans le monde. Parler de fascisme, c'est être à la hauteur de la gravité de la situation en Inde. C'est aussi tenter de rendre inconfortable le déni d'un Occident et des grandes puissances comme la France, hein, surtout soucieux de conclure des accords d'armement. Mais avant Modi, est-ce que la démocratie était en bonne santé ? À l'indépendance, en 1947, l'Inde devient une république laïque, démocratique et socialiste. Des idéaux institutionnalisés dans la Constitution. Le parti du Congrès aux commandes du pays pendant des dizaines d'années n'est pourtant pas un saint. De 1975 à 1977, nous vivons 2 années d'état d'urgence sous la dirigeante du Congrès Indira Gandhi, une horrible période de suppression des droits démocratiques. Les journalistes sont mis en prison, des programmes de stérilisation forcée sont mis en place, des démolitions de bidonvilles entiers sont orchestrées au nom du nettoyage des métropole. On compare souvent ce qui se passe actuellement avec cette période. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas officiellement en état d'urgence et le régime s'absout progressivement de toute responsabilité face aux institutions. Et elle demande enfin si le BJP est en train d'étendre ses mécanismes de répression et de soutien au grand capital à une échelle jamais vue. Et elle répond, quand on connaît les forêts reculées où vivent les Lesa Divasis, on se dit qu'il n'y a pas de différence entre le régime de Modi et ce qui se passait sous le gouvernement du Congrès. C'est le Congrès qui a permis l'exploitation massive des ressources minières et avec elle la destruction des moyens de subsistance. Pour lutter contre les révoltes localisées dans ces zones, le Congrès a lancé des campagnes de contre-insurrection. Des villages entiers ont été incendiés, les villageois tués ou mis en prison en vertu des lois antiterroristes. Mais aujourd'hui, le BJP est en train d'étendre ses mécanismes de répression et de soutien au grand capital à une échelle donc jamais vue. Ce qui est nouveau également, c'est la fabrique de l'homme macho, un personnage très patriarcal voulant préserver et protéger entre guillemets les femmes, sœurs et mères au foyer. Cette figure masculine hindoue doit protéger la nation, l'hindouisme et sa civilisation. Même les jeunes Dalits et Adivasis se plaisent à incarner cette nouvelle figure de l'homme indien. Et enfin, on lui demande pourquoi elle dit dans son livre que les graines de la démocratie s'épanouissent en prison. Parce qu'il y a quelques années, le régime indien a lancé une opération judiciaire spectaculaire contre des symboles de ce qui restait du mouvement social. 16 personnes venues d'univers militants très différents ont été mises en prison et y sont toujours pour la plupart d'entre elles. D'où mon expression. Nous sommes beaucoup à nourrir en nous-mêmes des idéaux de démocratie, de justice sociale et de solidarité. De nombreuses personnes en Inde continuent de se battre publiquement malgré les coups personnels et les intimidations qu'elles subissent. D'autres restent silencieux pour le moment, mais gardent vivantes leurs convictions et leurs conversations. Donc, on vous conseille, il y a tout un dossier sur l'Inde. Là, donc, c'était spécifiquement sur la situation politique là-bas. Donc, dans le magazine CQFD. Donc, voilà.
Très bien.
Pour cette page.
Tu vas me demander une petite musique, je pense.
Bah pourquoi pas, oui.
Quelque chose. Hein.
Bah allez.
Eh ben, on va rester avec Philippe Catherine. Hein. On fait la soirée avec lui ce soir. On va écouter Êtres humains. Être humain. Ou Êtres humains, oui. Pourquoi pas.
Bah allez. Hein.
Alors, attends, voilà.
Ah, parti. Alors.
Ah, bah oui, une double manif.
Manip. C'est à moi de parler, monsieur.
Oui, pardon.
Mais bah allez-y, je vous en prie. De... Mais vous avez bien le droit, évidemment.
On se croirait à l'Assemblée. Oui, c'était pour illustrer l'événement de samedi, quoi.
Tout à fait. Wow,
j'ai même pas pensé comme ça, d'ailleurs. Bref, allez.
Bref, bah, du coup, non, j'y vais.
Je vous en
prie. Donc, dernière partie de l'émission, Idées Noires, des militantes et militants de l'Union communiste libertaire, avec une deuxième page de lutte sociale à 20h44 sur la pendule de Radio Canu.
Eh bien, allez, on va partir avec sur les bonnes villes de Capdenac et de Caux-et-Liège. Alors, c'est dans l'ordre, c'est dans le Lot et en Aveyron. Avec la société, ça concerne plutôt la même société, la société Nutergia. Ou Nutergia, je sais pas, qui fait plutôt dans le complément alimentaire et qui ferait bien aussi de s'implanter dans le complément de salaire. C'était le 24 mai avec des négociations annuelles obligatoires qui ont bien mis en colère les travailleurs et travailleuses de cette entreprise. Alors pas seulement les négociations, mais le mal-être aussi. Un comble pour une marque qui doit faire du bien là où ça fait du bien, pour pasticher un comique bien connu. Sur leur revendication de 170 euros brut, l'offre a été de 40 30€ par la direction, puis 50€. Bref, grève une centaine de personnes sur 200 devant les locaux avec la CGT pour parachever la volonté de 16 semaines de négociations annuelles obligatoires et 7 réunions. Ils dénoncent donc le management toxique, un harcèlement organisationnel au sein de cette entreprise familiale et des risques, bien sûr, ici aussi, des risques psychosociaux. La chapelle Saint-Luc, c'est dans l'Aube, c'était le 25 mai avec Bricorama, mouvement social pour une trentaine de salariés sur 80, barrage filtrant bien en place, NAO insuffisante 1,5% et au mérite et pas de prime selon la CGT. Mais bien sûr ici on a diffusé des tracts explicatifs au public, à la clientèle, à l'intention donc des clients quoi, tout bonnement. Qu'est-ce que je vais chercher? Beauvais dans l'Oise, entreprise Jima, c'est un équipementier en matériel agricole. C'était le 25 mai avec une grève pour une vingtaine, menée par une vingtaine de personnes pour épargner une hémorragie de 32 postes, de suppression de 32 postes de travail. Alors que la société a bénéficié de largesses publiques pour la création de 200 postes, mais ça c'était avant. Des postes ont été proposés en 3x8 chez des voisins comme HCO, ACCO ou Safran. Alors selon les besoins, par des missions courtes, avec une perte quand même de 400€ sur le salaire pour les salariés en contrat week-end. Mais oui, je l'ai appris comme je vous l'apprends, en contrat week-end. Ça concernait 32 personnes jusqu'en décembre. Sinon, c'est la porte au mois de juin, donc au mois prochain, du moins ce mois-ci. La cause, c'est une baisse des commandes que les suppléants, entre guillemets, du week-end paye cash avec APLD, c'est-à-dire avec activité partielle de longue durée entre-temps, malgré des présences en entreprise depuis 20 et 30 ans. Hier, dans le Var, le 22 mai, chez Elior, c'est de la restauration, restauration industrielle, grève à reconduire. Si la CGT du CRU n'est pas satisfaite pour rétablir des conditions de travail dignes et mettre fin à la précarisation en vue des NAO du mois de juin, qui prévoit déjà des miettes dans cette société dont l'une des activités est la restauration collective avec une trentaine de salariés à l'École nationale de l'aviation civile en tant que prestataire. Alors, problème important de turnover également chez Elior, qui a donc des salaires, oui, une organisation au ras des pâquerettes en ce qui concerne le site toulousain et aussi la cuisine centrale de Hyères qui livre donc les repas aux établissements publics. À Gondange, c'est en Moselle, et le 27 mai, avec Asco Metal, qui est un groupe dans la sidérurgie qui est à reprendre. Il y a 5 usines qui composent ce groupe. Le tribunal de Strasbourg, de commerce, je suppose, doit donner réponse le 30 mai, mais je ne l'ai pas, sur un repreneur qui inquiète plutôt les 160 salariés sur le sérieux ou la suite de vie du site de Moselle. Car il est à désamianter ce site, donc les bâtiments, et aussi les modalités financières de reprise. En Assemblée Générale, une grève de 24 heures a été décidée avec arrêt de production et blocage des expéditions. Une lettre à Emmanuel Macron demande que l'État entre dans le capital de l'entreprise et demande également une entrevue avec le comité interministériel de restructuration industrielle qui concerne plutôt c'est une filiale, on va dire, du ministère des Finances. À Languidic, dans le Morbihan, le 27 mai, avec une grève chez Nutrea. Là, on est dans les aliments pour enfin de la nutrition animale. Groupe, c'est du groupe Eureden qui fait la pluie et le beau temps. Et ben c'est plutôt la pluie qui gagne au bout du compte. Le site fermera depuis début 2025, en février 2025, suite à une réorganisation de l'actionnariat entre Eureden et Terena. On tire donc un trait et on évalue la cata, 40 salariés sur le sable, on est dans le Morbihan, ou la paille, c'est selon. La grève est partie le 24 mai avec quand même un blocage de l'usine Eureden. Enfin, Eureden est actionnaire aussi principal, hein, à 100%, et qui évoque donc des orientations conditionnées par une baisse de la demande. C'est la CFDT qui est sur place, qui mène la lutte. Les infos ont été partagées en CES. La production sera récupérée par d'autres sites. Un reclassement des salariés sur d'autres sites aussi, c'est tellement plus simple comme ça. Coup dur pour Languidic. En 2021, c'est la société Cermix, qui fait aussi dans l'alimentation animale, qui fermait boutique, 30 emplois. Le groupe Neovia jugeait que la société trop enclavée, et d'autres sites ont été également bouclés avec une perte de 100 postes de travail et des luttes sociales à la clé. Le groupe estime agir de manière responsable. Amen. Est-ce que tu as quelque chose?
Oui, j'ai deux petits communiqués.
Eh ben allez, je te laisse
De l'UCL pour terminer. Un qui nous vient du Puy-en-Velay. Vous savez, là-bas, il y a une librairie fasciste, du coup, qui est ouverte depuis maintenant, je crois, 2 ans. Les militants et militantes là-bas se battent pour sa fermeture, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Et du coup, on va vous lire un petit communiqué. Donc, ça commence par des petits extraits du monsieur qui tient cette librairie. Je lève la main façon salut hitlérien dans une vidéo, mais je ne suis pas nazi. C'est juste de l'humour, affirmait le gérant de l'officine Les Arts enracinés au Puy-en-Velay. Comme Dieudonné en 2012, faisant monter sur scène un homme déguisé en déporté pour remettre au négationniste Forisson le prix de l'infréquentabilité, il s'agissait d'humour. Disons-le clairement, nous ne partageons pas toutes les formes d'humour, surtout quand elles relèvent la véritable personnalité de son auteur. Donc Maxime Sagnal est le numéro 3 d'une liste Europe forteresse très marginale dans l'eau des prétendantes et prétendants aux sièges européens. Cette liste est portée par Pierre-Marie Bonneau, dont on a déjà parlé, avocat au barreau de Toulouse. Et si elle ne recueillera que quelques miettes de suffrage des nostalgiques de la France de Pétain, le gérant de cette librairie Ponote, pour le Puy-en-Velay, ne peut plus se cacher derrière sa couverture d'un honorable commerce. Derrière l'avocat, qui n'hésite pas à citer Hitler ou Maurras lors de ses plaidoiries en défense des bébés nazillons et autres négationnistes, qui ne cache pas non plus sa filiation avec les mouvements fascistes français de l'entre-deux-guerres, l'engagement du soi-disant libraire est clair. Il ne peut plus se cacher son adhésion, aux pires idéologies meurtrières derrière une banale librairie défendant les traditions françaises. Le triste sire de l'idéologie nationale-socialiste usait et abusait de la liberté de commerce pour cacher ses penchants nauséabonds. Il se dévoile lui-même disant, dans un article paru sur Zoom 43, mon commerce a pignon sur rue, il commence à fédérer un certain nombre de personnes de la région. Si mettre ma vie professionnelle au service de la cause politique que nous défendons, si ma boutique permet d'établir un relais pour les nationalistes, alors c'est parfait. Il reconnaît, comme les militants antifascistes le disent depuis l'ouverture de son commerce, que son officine est bien le lieu de relais de tous les fachos du coin qui s'y sentent comme un poisson dans l'eau, béant d'admiration devant toute la littérature terrifiante que l'on croyait reléguée dans les caves des suprémacistes. La liste Europe forteresse n'est qu'une insupportable attaque contre les étrangers et étrangères et leurs descendants-descendantes, mais aussi des femmes. Quelques morceaux choisis, alors en ouvre les guillemets, hein, c'est de leur part. Hein. Non seulement nous voulons arrêter l'immigration, mais plus encore l'inverser, lance le patron de la librairie. C'est ça que nous appelons la remigration. C'est organiser le retour des populations étrangères dans leur pays d'origine de la manière la plus pacifiée possible, dit Maxime Sagnal. Remarquons dans ce projet de déportation l'utilisation du possible pour ce qu'ils appellent la remigration. Il est clair que la force est sous-entendue. C'est ce qu'ont fait les nazis en Allemagne, poussant les juifs à quitter leur pays, entre guillemets, pacifiquement par des lois racistes, la peur et les spoliations avant de les déporter. On rouvre les guillemets, nous n'allons pas les envoyer au Groenland, hein, mais les ramener là où ils devraient être. C'est rétablir ce qui est de la normalité, à savoir que les peuples vivent sur leur terre, tout simplement, rajoute-t-il. Tout simplement. Aveu d'une paresse intellectuelle pour qu'ils travaillent avec des livres. Les peuples et les cultures ne sont pas figés, la normalité n'est pas plus la fixation sur un territoire que l'enfermement derrière des forteresses. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont voulu, comme la Chine avec sa grande muraille, l'Empire romain avec son lit, mais les pays de l'Est avec le rideau de fer, ont fini par s'écrouler. À propos des couples, il ne craint pas de vouloir contrôler la vie privée des personnes, comme les idéologies totalitaires en s'appuyant sur un ordre soi-disant naturel. On rouvre les guillemets. Les lois doivent être en accord avec la nature, et l'ordre naturel des choses sur le sujet, c'est un homme avec une femme. Son ordre naturel n'est qu'une ressuscité des vieilles théories de quelques intellectuels fatigués du XXIe siècle qui ne voyaient le couple uniquement comme une force de reproduction, entre guillemets, de la race pour les nationalistes ou comme une reproduction de la force du travail pour les capitalistes. Dans les deux cas, les femmes à la maison faisaient été un lait pur aux futurs soldats pour l'un, libérant les bras de l'homme pour qu'il se tue à l'usine pour les autres. D'ailleurs, celui qui se voit peut-être déjà siégé à Strasbourg parle d'une aide aux mères de famille. Il s'agit bien d'une aide pour que ces sauvageons libérés d'un mâle dominant restent à la maison pour torcher le cul des marmots. Puis, l'abolition de l'avortement et probablement plus tard des moyens de contraception et pourquoi pas un retour à la ceinture de chasteté. Le programme de cette liste qui tiendrait sur un vieux timbre-poste vantant les mérites de la France coloniale n'oublie pas de demander l'abrogation des lois mémorielles et antiracistes, une idée fine pour ces fadas de la liberté d'expression quand elle est limitée à leurs seules opinions, tout contrôlé permettant de lâcher complètement leur racisme et leur antisémitisme. En piochant ces trois idées dans les eaux nauséabondes d'un passé qui n'est pas passé, le numéro 3 de cette liste ultra-nationaliste ne cache pas ses intentions. Les quelques miettes d'adeptes du bras levé qu'il ramassera lors des élections ne devraient pas nous inquiéter, ni même faire l'objet d'un article, et pourtant, l'officine, sa librairie, continue d'exposer, de vendre toute cette littérature qui influence aussi les auteurs d'attentats terroristes d'extrême droite, les attaques contre les personnes racisées. Depuis 2 ans, le valeureux croisé avec ses conférences monte régulièrement d'un cran dans la surenchère provocatrice. Malgré les alertes et les rassemblements, pourquoi les autorités d'État, la mairie du Puy et la justice laissent-elles faire ? Enfin, si cette librairie ravit les amateurs de chants hitlériens, de beuveries sous les drapeaux de la Waffen-SS, le véritable danger n'est pas leur folklore viriliste et de suprémaciste. Ils sont le petit arbrisseau que cache la vaste forêt du RN et de ses alliés, qui disent la même chose mais d'une manière plus nuancée, plus soft et surtout qui risquent un jour d'être à la tête de l'État. Demander la fermeture de ces lieux immondes que sont les locaux fascistes n'est pas une atteinte aux libertés, mais une manière de les sauver. Voilà pour le communiqué des camarades du Puy, du coup, qui a été repris de manière fédérale par l'Union communiste libertaire. Vous pouvez donc le retrouver sur notre site internet. Donc voilà, on vous rappelle quand même le principal rendez-vous de ce week-end avec la marche des fiertés qui partira à 14h de la manufacture des tabacs pour arriver au parc Sergent Blandan. S'il fait chaud,
modifié.
Voilà, parce que le départ initial était au parc de la Tête d'Or et elle devait arriver au parc Blandan. Le lieu d'arrivée reste le même, mais du coup le parcours est complètement changé. Si jamais il fait chaud comme aujourd'hui, prévoyez de quoi boire et de vous protéger du soleil, parce que le parcours fera 4,7 km ouais. Et donc se terminera par un village des associations pour la marche des fiertés, donc au parc Blandan. Pour nous, du coup, on n'aura pas de permanence pour ce samedi de 15h à 19h puisque nous serons très certainement à cette marche. Il y a aussi un rassemblement pour la Palestine à 15h, mais il y a aussi un cortège Palestine prévu dans la marche des fiertés. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent passer à la librairie, bah, faudra se retrouver le mercredi prochain, oui. Très certainement, entre 17h30 et 19h30. Vous pourrez trouver notamment pas mal d'ouvrages pour soutenir la librairie. Vous trouverez aussi le journal de notre organisation qui s'appelle Alternative Libertaire, dont le numéro du mois de juin est sorti avec une sur Gaza. La solidarité n'est pas un crime. Donc voilà, et bah écoutez, on va vous laisser à 20h59 pile. On va vous laisser avec le générique pour finir cette émission. Et on vous dit, bah, pour moi dans 15 jours, pour toi peut-être la semaine prochaine.
Oui, probablement. Et donc, oui, voilà. Je serai encore à ce micro pour vous déblatérer des. Enfin, déblatérer.
Oui, c'est pas déblatérer. Trop beau, quand
même. On déblatère pas avec les luttes sociales. On donne les luttes sociales. Voilà, c'est mon petit boulot. Allez, à mercredi alors. Et bonne semaine.
Bonne semaine à vous. Ouais.
Ciao. Salut.